catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kellé, la légende vivante, animateur du Sim.
Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim.
Nous sommes Sim!
Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Tu veux-tu voir mon... comment t'appelles ça? Ma ligne de bronzage?
T'étais en G-string sur la plage?
Ben oui.
G-string léopard, j'espère.
Non.
Hey, on arrête de niaiser. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF, en compagnie de Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958.
Self-proclaimed legend.
What the fuck?
Mon Dieu, ça a brassé sa plage.
Un peu.
Écoute,
ça fait du bien, par exemple.
J'suis, ouais, t'as eu du plaisir.
Revigoré.
Ouais, du plaisir avec ton épouse.
Hey, écoute, l'épouse, c'était génial. On a fêté sa retraite. Mais ma bataille avec un requin, esprit qu'on a mangé. Écoute, j'ai les dents en souvenir.
Non, monsieur!
Ah oui, tu vas mettre une photo sur la page du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs?
Aujourd'hui, on va parler des meilleurs combats à vie. Partie 3, dernière partie.
Ah oui, c'est la dernière partie?
Oui, parce qu'on avait du monde qui voulait absolument en parler, dont Kevin Raphaël.
Ah oui, qui
lui,
d'autre?
Quand il a entendu parler de ça, il dit « Je veux participer à cet épisode-là. »
Qui d'autre qui va être là sur le podcast aujourd'hui?
Mathieu Lavigne, ton bon ami, Lave.
Est-ce qu'il est là pour terminer son top 5 sur les costumes?
Ça, c'est chier, c'est chier, c'est plus que chier.
Il doit achever.
OK, parfait.
Je l'ai trouvé long.
Non, mais certains auditeurs m'ont dit qu'ils avaient trouvé son top 5 long. Ben, mais moi, intéressant, bon. Par contre. Très bon. Intéressant.
Tu sais, il y en a un, là, M. Chouinard. Qui,
Gino Chouinard, on
non,
le salue.
Non, pas Gino. Un qui nous a parlé il y a quelques semaines, qui nous a dit de parler de Bound for Glory.
Oui.
Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste les lutteurs. Mais écoute, concentre-toi, les invités qu'on a, c'est des invités de qualité.
Oui.
Ce qu'ils disent, c'est intéressant. Fait même si le gars, il n'a pas lutté, t'as le droit de l'écouter puis de voir qu'est-ce qu'il dit sur la thématique.
Oh yeah!
Correct, ça?
Es-tu choqué?
Non. Choqué. Mais non, moi. Parce que la vente de mon livre va très bien.
Oui, parle-moi du livre. Un excellent livre. Il y a plusieurs mentions de Handsome GF dans le livre, donc ça aide à la vente. Et surtout, notre photo.
Ah ouais, belle photo.
La plus belle photo du livre.
On l'a montré d'ailleurs à Basile quand on était allé à Bound for Glory.
Ouais,
c'est lui qui a pris la photo.
Effectivement.
Et puis, écoute, non, ça va bien. Il y a de plus en plus de... Ce qui est le fun, c'est qu'un livre, t'en vends. Tu sais, je peux en vendre dans un an, mais il m'en restera plus, là, j'espère. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose comme ça sort là puis c'est fini.
Ouais.
Et la période de Noël s'en vient. D'ailleurs, à la fin novembre, dans quelques semaines, nous allons faire un épisode sur les livres de la lutte. Et on a ton bon ami Simon Lacroix qui va nous parler des livres qu'il a lus, lesquels Pat Laprade, Bertrand Hébert, tout ça. Mais oui, pour revenir, ça va bien. Les premiers envois sont partis en Belgique, en France. Fait que je suis pas mal où ce que je pensais je serais à cette date-ci.
Donc, la francophonie est au rendez-vous pour le livre?
Oui.
L'Afrique, ouais, est-ce que l'Afrique a commandé des livres?
Je n'ai pas envoyé un en Afrique encore.
Pas encore, mais je pense que ça s'en vient. Là. L'Afrique, on a beaucoup d'auditeurs d'Impact Wrestling en Afrique.
Oui, oui, oui.
Les fans de Marc Blondin, là-bas, il y en a. Là.
À tonnes.
C'est fou.
Ben oui.
Incroyable.
Non.
Le meilleur combat, on a eu plein d'invités, on en a nommé plein, mais on n'a jamais eu ce que toi, Handsome GF, c'était quel... ton meilleur combat à vie?
Le meilleur combat que j'ai assisté live, c'est...
Ça répète à TV aussi, tu
ouais,
sais.
Oui, mais moi, hein? Okay. Je m'en rappelle encore parce que j'en parle, j'en ai des
frissons. J'espère que tu t'en rappelles encore, sinon tu serais pas capable de nous en parler.
Hey, boy!
Non, mais je t'en parle puis j'ai la chair de poule.
The chair de poule!
Écoute, je vais mettre la table.
The table is putting!
Écoute, je reviens à nos moutons. Oh, un bruit de mouton. WrestleMania 18 à Toronto. Je descends là avec un de mes amis. Kevin Owens qui est là avec un de ses amis.
J'ai mal à la laine.
Ah oui, c'est médical puis ça fait mal, comme
non,
dirait Pat
Burns. On revient aux moutons.
Crée mon genre que t'es par là.
Bye-bye. Tout ça pour dire qu'on est à Toronto, WrestleMania 18. C'est en 2002, donc je suis toujours fringant, 22 ans. On va là puis on sort comme des malades. Puis on arrive au show qui est du...
Tu sors puis t'es malade ou tu sors comme des malades?
Un peu des deux.
OK.
WrestleMania le dimanche soir, bien sûr. Puis moi, j'étais avec Kevin, puis j'arrête pas de dire, ce match-là, ça va être un match débile. Puis il n'est pas tellement sûr. Ça, c'est le quart de finale. Puis dès que Rock et Hogan sont rentrés dans le Sky Dome, je pense que ça s'appelait Sky Dome à l'époque, maintenant c'est Rogers Center, c'était électrique. Les gens étaient debout, ont crié. Moi, j'ai perdu la voix. Kevin a perdu la voix. On en avait quasiment mal à la tête tellement on a crié.
C'était pas à cause de la boisson de la veille?
Non. Écoute, je suis un professionnel. Je suis sorti et je suis m'hydraté surtout.
C'est surtout à l'épicer souvent.
Également. Mais pas pendant ce match-là parce que juste la structure du match, c'était pas ce qui était le plus... électrisant au niveau des manœuvres, de la haute voltige, mais tu sais, du bon storytelling. Là.
La magie.
Ça a commencé avec... Ils se regardaient, puis ils regardaient la foule, puis la foule réagissait, puis il y avait des chants de Rock, Rock, Hogan, Hogan. Puis juste, ça a commencé avec des lock-up. Comment tu dis ça en français?
Prise de contact.
Prise de contact.
Épreuve de force.
Épreuve de force, prise de contact, puis là... Je pense que c'est Hogan qui avait poussé Rock en premier, puis il avait refait, puis l'autre avait poussé l'autre, puis ça avait mis la table jusqu'à la fin où Rock avait gagné. Puis sur la rampe, ensuite, Hogan avait levé le bras de Rock en le pointant. C'était comme le passage du flambeau.
Ouais.
Puis c'est ça qui a mené un peu à la fin de la NWO à la WWE, parce que le lendemain à Raw, qui était à Montréal, si ma mémoire est bonne,
semble.
Une ovation monstre pour Hogan.
Oui.
Puis là, dans les histoires, Kevin Nash et Scott Hall n'étaient pas contents de la façon qu'avait agi Hogan, puis ça avait amené à la fin de la NWO. Mais tout ça pour dire que le match fini, je veux m'acheter un chandail Icon versus Icon. Ceux qui ont vu l'image, là, t'as Rock et Hogan qui se regardent. Ça a été pris à un Raw menant à ce mania-là. Moi et Kevin, on part à courir dans le Sky Dome, trouver un chandail. Je pense que je prends un 16 trop petit parce qu'ils ont tous été vendus. On revient... C'est le match des femmes qui est dans le ring, qui est la demi-finale. Jazz contre Trish Stratus et Lita. Un triple threat qui a été remporté par Jazz. Il n'y a personne qui s'en rappelle. Puis la finale...
Je savais même pas que ma femme avait lutté. Ah non, moi, c'est Jazz.
Hey, boy!
C'est ça, la différence.
Excuse-moi.
Incroyable. La finale, c'était Triple H contre Chris Jericho, qui était accompagné de Stephanie McMahon.
Mais là, pourquoi tu me donnes toute la carte?
Non, pour te dire qu'après le match de Rock Hogan, c'était terminé dans le Sky Dome. Tout le monde était mort.
Ça montait de même, puis ça descendait.
Ça a tué le reste de la carte, la demi-finale. Puis même la finale, il était rendu tard. Là, c'est à l'époque qu'il commençait à faire des WrestleMania trop longs.
Ouais.
Le monde commençait à s'en aller.
Et...
Puis c'était Triple H Jericho dans le ring. C'était pas deux pieds de céleri. Là, mais la foule était morte. Toute l'énergie, c'est Rock Hogan qui l'a eu. C'est sûr que c'était pas le championnat, tu peux pas finir le show avec ça, mais ça a tué complètement le reste de la carte. Donc moi, c'est mon meilleur match dans l'ensemble que j'ai vu dans ma vie.
Wow! T'en parles, puis j'ai le goût de l'écouter.
Tu devrais.
De regarder. Encore.
Ouais.
Encore.
Tu devrais réécouter ça.
Après la pause, on reçoit l'humoriste, un des propriétaires d'une équipe de hockey féminine.
La Force.
Oui, exact. Et... celui qui est le collègue de notre ami Pat Laprade à TVA Sport pour Raw de la WWE. Nul autre que...
Kevin Raphaël!
Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast, visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible, sim.shop. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, épisode numéro 85, Kevin Raphaël.
Wow, 85!
85, pas mon âge!
Non, monsieur!
Non, mais c'est quand même fou, 85 épisodes. T'en as fait beaucoup, il me semble que t'as commencé après les Antipodes.
J'ai commencé, écoute, c'était en mars 2021.
Wow! C'est incroyable, félicitations.
Ouais, ouais, ouais. Fait que ça va bien, ça va bien. On est content. Puis le weirdo à Jean-François Kelly est arrivé à un moment donné, puis il a dit « Pourquoi qu'on ne fait pas un épisode? » Puis il demandait du monde, c'est lequel, un seul combat,
ouais.
Lequel qui les a marqués. Puis on a fait le tour, écoute, ton ami Pat Laprade, que pour moi c'est une connaissance, il y en a plein qui ont tous donné leur combat. Puis à date, je pense qu'il n'y en a pas deux qui ont choisi le même.
Ah.
En trois épisodes, fait qu'on parle d'au moins une quinzaine d'invités. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que toi, tu vas me dire. Quel est le combat qui t'a le plus marqué ou que tu as le plus aimé? Ou...
Écoute, jusqu'à ce que tu m'envoies le lien Zoom, je débattais entre deux. Je veux donner mention honorable à Carlito, Johnny Nitro, puis Shelton Benjamin à SummerSlam. Je me rappelle, j'étais au cinéma Colossus quand je l'avais vu ce match-là. Ça m'avait tellement impressionné, Triple Threat. Toutes les Motor City Machine Guns contre Beer Money, c'était de la classe. Écoute, à AEW, on a vu des Match of the Year, Match of the Decade. Excuse-moi, mon chien capote un peu. Théo, non. On en a eu beaucoup, mais je dois...
C'est drôle, excuse. Fallait que tu te dise ça parce que Théo jappe, puis moi, habituellement, c'est Kelly qui jappe.
Théo, en ce moment, il me regarde avec des gros yeux, il va aller dehors, on va y aller tantôt.
Jean-François, attends. garde ta laisse.
Qu'est-ce que tu pourras aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ça peut attendre.
Reste habillé en cuir noir.
Oh, God. Non, donc, moi, j'hésite entre deux matchs. Le match entre Shawn Michaels et Undertaker, leur premier. Donc, ce match-là, pour moi, c'est un bon mix de storytelling, un bon mix de l'habileté athlétique. Puis, tu sais, c'est une histoire qui a été construite à travers... des années, là, on parle du match de retraite de Shawn Michaels, donc sa carrière au complet qui était étalée sur 20-25 ans. On parle de la streak d'Undertaker qui, à ce moment-là, je pense qu'il était rendu à 21-22, ou je ne vais pas dire le chiffre parce que je ne vais pas me tromper, mais on parle de ces storylines-là sont basées sur des décennies de lutte pour culminer à un match. Puis il était en confrontation avec Owen contre Bret à WrestleMania. Moi, je suis un fan de Owen Hart. Je pense que je suis le plus gros fan de l'histoire de l'humanité de Owen Hart. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matchs que c'est des sans faute. Et ça, c'en est un sur un aussi gros stage. Le fait que Bret Hart il revienne après dans le main event pour devenir champion.
Ouais.
Le storyline de ce storyline-là.
Là, tu me parles-tu de deux combats?
OK, là, il faut que j'ai choisi ça.
T'as-tu shifté de Undertaker à Owen? Essayez de m'en passer une petite vite.
OK, je vais faire le choix. Puis c'est très fluide. Okay, puis le mercredi 5 octobre à 12 à 12h37, mon choix, c'est Taker Sean.
OK.
Ça se peut que demain, ça change. Mais en ce moment, c'est ça.
Puis pourquoi ça serait ça? Ce combat-là, pour toi, qu'est-ce que ça t'a fait?
C'est que y a tellement eu d'histoire entre les deux. J'étais assez vieux pour apprécier la qualité de lutte, mais aussi pour lire Internet puis savoir c'est quoi les backstories de ces affrontements-là.
Quelle année qu'on parle, Kevin?
Oh my God, je pense que c'est WrestleMania 25. Pendant que je parle, je vais taper en même temps. WrestleMania 25, Taker versus Shawn, je pense que c'est ça.
D'après moi, tu parles en même temps, mais tu parles ce que tu tapes sur l'ordinateur.
Ben ouais, peur. C'est ça. Donc, instant classique. Puis tu sais, c'est aussi quand il est arrivé Shawn Michaels est arrivé du ciel en blanc, Taker est arrivé du sol en noir. Tout ce. Puis ce match-là aurait dû être le main event. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Là, mais,
m'as-tu dit l'année? M'as-tu répondu?
Ah, je t'ai répondu, WrestleMania 25, il n'y a pas l'année. L'année, c'est WrestleMania 25, attends. Taker, la streak était 17-0. La streak. Okay. 2009. Fait que c'était 2009.
T'as quel âge en 2009?
En 2009, je viens de finir le secondaire. Fait que j'ai 17-18.
OK. Puis 17-18, ouais. C'est quand même un âge où souvent on change nos priorités ou nos goûts changent. Fait que toi, tu étais vraiment embarqué encore à plein dans la lutte WWE. Là.
Ah, moi, on n'a jamais arrêté d'écouter la lutte, nous, à la maison. Puis je me rappelle, c'est drôle qu'on compare de ce match-là, anecdote. Véronique Cloutier faisait son émission Votre beau programme. Puis la première émission de ce show-là à Radio-Canada, Alex Perron venait chez nous pour fêter les 50 ans de mon père.
Oui, donc, ça, tu me souviens, tu nous as parlé de ça.
Et je me rappelle...
Qu'Alex Perron, la grand-mère, quand il a dit « Bon, on va fermer ça », puis
elle
l'a regardé, puis là, il n'a pas dit un Christine mot, puis il écoutait la lutte.
Ben, dans cette soirée-là, le match qui ne voulait pas fermer la télévision, c'était Shane contre Undertaker dans le Hell in a Cell. Puis c'était comme WWE Network qui alignait plusieurs matchs de Taker à WrestleMania. Et quand, je me rappelle, c'était vers la fin de l'émission, quand c'était Taker contre Shawn, même Alex Perron, il est resté un peu juste pour regarder parce qu'il était comme... Mais c'est quoi qui se passe? Parce que je me rappelle, je l'avais vu au cinéma, puis la foule, il y avait un engouement, il y avait... Tu sais, comme quand tu tapes un peu de même, là, mais on pouvait sentir ça à travers la foule, à travers le cinéma. C'est rare que le cinéma réagissait autant, ça réagissait tout le temps au cinéma, mais autant, c'était... Puis tu sais, dans les deux cas, on pouvait penser que Shawn allait prendre sa retraite ou que Taker allait perdre son streak. Fait que les deux cas étaient plausibles.
C'était deux gros cas possibles.
Ouais. Puis, ça se défendait. Puis, c'était les débuts des podcasts aussi, tu sais, dans 2009, 2010. Puis, je me rappelle, j'écoutais Live Audio Wrestling de là. Puis, ça s'ostinait qui va gagner. Puis, c'est rare dans le monde de la lutte qu'il y a encore de l'ostinage sur qui va gagner parce que c'est plausible que les deux gagne, tu sais.
Ouais.
Donc, non, moi, c'est vraiment mon match. Puis le spot, quand Shawn Michaels, il est un peu récalcitrant, puis qu'il dit « Ah ouais, fais-moi là », puis tu sais, dans le secret, il veut pas être celui qui
va donne... Va tenir la carrière de...
Ouais, mais ça fait référence à Shawn contre Ric Flair l'année d'avant à WrestleMania 24, où Shawn, il dit « I'm sorry, I love you », puis il plante le couteau dans le cœur, puis il plante le couteau dans le cœur de tout le monde. Puis c'était ça aussi. Puis aussi, Shawn, ça a toujours été un de mes favoris. Mon numéro un, c'est Owen Hart. Mais mon numéro deux, très, très proche, c'est Shawn Michaels. Donc, c'était comme aussi pour moi de fermer un livre qui n'a jamais été réouvert, à part la fois en Arabie Saoudite, qu'on oublie cette fois-là. Mais ce livre-là n'a jamais été réouvert, puis je trouve ça pertinent. Je pense que ça rajoute à l'importance de ce match-là, parce qu'il n'est jamais revenu, à part la fois qu'on ne veut pas. Donc, non, moi, c'est mon match, je pense. Puis Owen Brett va être un close second.
Quand, au début de l'entrevue, un des premiers mots que tu as dit, c'est l'histoire.
Ouais.
Est-ce qu'on est d'accord que l'histoire, ben, c'est tout dans un combat?
Ah, moi, c'est la priorité parce que des kicks, des coups de poing, des flips, des flops, on en voit partout. Dans toutes les compagnies, si tu sors de l'école de lutte, tu es capable de faire des flips, mais de raconter une histoire puis d'aller chercher l'émotion chez les gens, les amener avec toi, les faire crier, pleurer, chanter, il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui ont cette habilité-là. Puis, c'est pas que j'aime pas la AEW, j'adore la AEW, je pense que j'en parle tout le temps. Je trouve que le storytelling de AEW, c'est ce qui manque en ce moment.
Comme ça manquait à WWE il y a quelques mois.
Ouais. Je trouve qu'avec Triple H là, à la WWE, c'est vraiment, vraiment mieux. On comprend mieux aussi où vont les choses. Puis tu sais, l'histoire pour moi, c'est pas obligé d'être un gars aime pas l'autre gars puis ils se battent. Pour moi, l'histoire, le White Rabbit en ce moment qui est sur Internet, que je peux passer 2-3 heures de ma journée, que j'ai pas le temps, mais je veux absolument savoir c'est quoi les codes derrière le code QR qui apparaît à la télé, puis que là, je vais sur YouTube, puis que là, il y a du monde qui sont en train de décortiquer des trucs. Pour moi, ça fait partie de l'histoire aussi. Créer de l'anticipation, de l'engouement, de l'effervescence. Puis dans le match en tant que tel, quand t'as créé quelque chose pendant... Puis tu sais, il y a une autre chose que j'haïs du monde de la lutte en ce moment, c'est qu'on prend pas le temps de faire des histoires longues. Souvent, c'est des histoires d'un mois, un mois et demi.
Ouais, c'est ça.
Moi, je veux des histoires de 3 à 6 mois, là, tu sais. Donnez-moi du gros autour de l'os, là, tu sais.
Mais tu le sais que, comme dans un film, des fois, t'as le meilleur réalisateur, t'as le budget. Mais il faut que l'histoire, la performance soit livrée par les acteurs. Et dans notre cas, à nous, les acteurs, c'est les gars dans le ring.
Exact. Puis, tu sais, c'est quand tu as des pros comme... Puis, tu sais, j'aurais pu mentionner Okada, puis Okada, puis Omega, le Time Limit, qui était vraiment, pour moi, le meilleur match à New Japan que j'ai jamais vu. Okada Ospreay. Tu sais, il y a beaucoup de matchs que tu te dis, hey, ces matchs-là, c'est dans les meilleurs matchs que j'ai vus de ma vie. Mais l'histoire ne peut pas suivre l'histoire de Taker Shawn ou de Owen contre Bret. C'est des matchs exceptionnels. Dans le match, le storytelling du match est exceptionnel. Mais l'effervescence que je suis assis là, puis là, je suis comme, OK, Bret avait dit, je ne vais jamais me battre contre mon frère. Et là, ça se passe. On est à WrestleMania. Je suis assis, je le regarde. T'sais, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose aussi qui rentre dans le match. Puis, aussi, on l'oublie beaucoup, mais les commentateurs des matchs, un commentateur peut faire en sorte que le match soit un des meilleurs matchs de tous les temps ou que le match soit pas un des meilleurs matchs de tous les temps, même si la qualité est là. Puis je trouve que dans les 3 matchs que j'ai mentionnés, puis tu sais, Vince était si bon comme commentateur, même s'il était over the top un peu, mais je le trouvais bon parce qu'il mettait over le match, lui. Là. Et lui, il vendait un match là, comme si... Sa vie en dépendait. C'était bon pour sa business, tu sais. Donc, les commentateurs aussi, puis les arbitres, tu sais, les arbitres.
Tout le monde.
Puis, tu sais, même l'annonceur maison, là, tu sais, Howard Finkel, là, il arrivait, puis il sortait sa voix de Howard Finkel, là. Tu savais que c'était un big match. Tu étais assis, puis là, tu faisais... ça va être bon, tu sais.
Kevin... Encore une fois, un énorme merci. Je sais que tu es un gars hyper occupé. Ça n'a jamais arrivé que tu refuses une invitation du CIM.
Je ne vais jamais refuser. Chaque fois, tu me dis de venir, je vais être là. Je vais courir.
Parfait. Et la question que tous les auditeurs se posent, est-ce que d'ici la fin de 2023, est-ce que ces deux gars-là vont se rencontrer pour la première fois live? Écoute. En humain.
J'aimerais ça. Avant la fin de 2023, j'espère que c'est possible. Il reste quand même 14 mois, mais oui, j'aimerais vraiment ça. Là. Ça n'a pas donné
avec le livre. Ça me fait capoter. J'ai l'impression que je parle à un chum de longue date. On ne s'est jamais rencontré.
Mais c'est fou, hein? C'est vrai, c'est fou. Mais c'est sûr qu'on... Là, maintenant qu'on peut sortir dehors puis qu'on ne sera pas retourné en dedans, la vie reprend pour vrai puis ça va être le fun. Là.
C'est bon. Fait que attention à toi, pas encore une fois. Merci. Salut.
Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.
Notre invité sur le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Mathieu Lavigne. Mathieu, c'est quoi ta deuxième présence sur le Sim?
Ça me fait toujours plaisir d'être là, Marc.
Ben merci d'être là. On voulait savoir, parce que tu nous avais impressionné par ta façon de t'exprimer la dernière fois. On voulait savoir, pour toi, c'était quel combat qui est le meilleur ou qui t'a le plus marqué dans tous ceux que tu as vus?
Ouais, j'ai bien aimé la question parce que c'est pas une question d'en choisir 10, 5 ou 3, c'est 1. Puis 1, ça fait vraiment le. Tu sais, il a fallu que j'aille chercher plus dans l'émotionnel avec un seul combat. Je peux pas dire, ce combat-là est meilleur au niveau de la lutte, ce combat-là est meilleur au niveau de l'histoire. Il fallait que ce soit un combat qui englobe ma passion pour la lutte au complet. Fait que j'ai choisi le Royal Rumble 2001.
OK.
Ouais. Parce que déjà, moi, j'étais un gros fan du Rumble. Le premier match que j'ai vu de ma vie de lutte, c'est le Rumble 1991. On m'avait prêté une VHS, puis ça donne qu'il était QA au moment où le Rumble commençait. Puis depuis, c'est probablement le seul pay-per-view de lutte que j'essaie de regarder live à chaque année, avoir aucun spoiler. C'est le combat de lutte pour moi, parce que tu peux résumer le produit d'une année au complet avec le Rumble. Tu vois une grosse partie du roster. Puis aussi, on prépare WrestleMania avec le Rumble.
Parce qu'on est à quelques mois de WrestleMania quand le Rumble est diffusé.
Exact. Puis tout ce qui est... tous les plans de WrestleMania sont un peu destinés au Rumble. Les rivalités commencent là. On sait qui est mid-card. On sait qui va faire le main event. T'sais, tout est clair au Rumble. Fait que puis encore cette année, je peux pas te dire que j'écoute encore la WWE, malheureusement. Ça va peut-être revenir. Mais je sais qu'en janvier, je me pogne le Network, je me pogne le Sportsnet, puis je vais recommencer à écouter la WWE jusqu'à WrestleMania. Parce que le Rumble est là à chaque année.
Puis, tu fais ce rituel-là à chaque année?
Ben normalement, j'écoutais la WWE à l'année longue, mais là, depuis 2-3 ans, c'était plus stagnant. Fait que j'ai arrêté de regarder la WWE. Okay. Puis, je peux regarder un match ici ou, tu sais, quand j'apprends que quelque chose était cool, je peux le regarder. Mais pas à l'idée de passer 3 à 5 heures par semaine à regarder la lutte.
Et pourquoi le Rumble de 2001?
Ouais, le Rumble 2001, pour moi, c'est parce que j'ai 13 ans au moment où ça se passe. Puis je pense que c'est le moment où ça a été un peu décidé que la lutte, ça allait faire partie de ma vie.
Ouais,
en 2001, tu sais, j'ai pas d'argent. Il y a un de mes amis qui a le canal Indigo. Ses parents ont le câble, tu sais. Puis le gars, il reste aujourd'hui, là, en distance d'adulte, 5 minutes de marche. Mais okay. Toute notre semaine a été prévue comme pour qu'on regarde le Royal Rumble ensemble. On avait le souper, on avait la VHS qui était prête, on avait fait nos économies pendant le mois pour louer le pay-per-view. Tout était prêt, il fallait que je dorme chez lui parce qu'on avait de l'école le lendemain, puis 11 heures, c'est tard pour revenir tout seul à la maison, même si c'était juste 5 minutes. Mais tu sais, j'ai 13 ans. Puis le Rumble en tant que tel, il est excellent. Tu sais, on est en restant d'Attitude Era. Ça commence avec les Hardys, Kane, Drew Carey qui se pointe après pour faire une espèce de caméo de vedette. Le Honky Tonk Man fait un retour. Après ça, t'as une espèce de section hardcore bizarre avec Steve Blackman, avec Raven, avec Al Snow, avec Saturn. Ils se lancent des boules de bowling, ils se donnent des coups de bâton. Tu sais, après, c'est la section mid-card. The Rock puis l'Undertaker, ils rentrent, ils clairent le ring. Puis il y a une section vraiment cool aussi vers la fin où il reste juste deux personnes dans le ring. C'est l'Undertaker puis Kane en mode Brothers of Destruction. Ils viennent de sortir tout le monde. Puis le numéro suivant, c'est Scotty Too Hotty. Puis crise de beau moment. Scotty Too Hotty prend à peu près une minute à se décider à rentrer dans le ring parce qu'il y a Kane puis l'Undertaker qui l'attendent dans le ring. Puis il sait que ça va être de la marde. C'est un beau moment. Puis après, ben, t'as la section, tu sais, les gros rentres. C'est une rentrée qui chirante. Il y a même Haku qui rentre vers la fin. C'est un beau Rumble. Au-delà du fait, tu sais, au-delà de l'attachement émotionnel que j'ai pour le match, Tu sais, qui nous a fait aller sur Internet toute la semaine pour regarder les prédictions, puis regarder qui allait être dans le ring, puis nous qui met les petits résultats sur nos feuilles de papier, parce qu'à l'époque, tu peux pas juste aller sur Wikipédia, voir qui est rentré quand, avec combien de temps dans le ring. Tu sais, il y a comme un... C'est un beau moment, puis c'est probablement un des seuls shows de lutte que j'ai vu de ma vie duquel je me rappelle d'à peu près tout.
Ah!
Je me rappelle la soirée, je me rappelle des jours avant... Je me rappelle de l'après, parce que là, le lendemain à l'école, nous, on a loué le pay-per-view, tu sais, on est des big shots. Ben ouais, on a loué ça, tu sais, les parents nous ont laissé rester jusqu'à 11 heures pour regarder de la lutte. Tu sais, c'était un beau moment. Puis c'est probablement, comme je disais, c'est le moment où j'ai décidé que la lutte allait probablement faire partie de ma vie, parce qu'après, c'est devenu un rituel, tu sais. Qui peut louer le Rumble, ou qui peut louer Mania, qui peut enregistrer Raw pour les autres puis se prêter la cassette le lendemain. Parce qu'avant ça, j'écoutais pas la lutte à toutes les semaines, mais là, c'est devenu plus systématique à ce moment-là.
Et dis-moi, dans un Rumble, est-ce que c'est les surprises? Est-ce que c'est quand il y a la présence d'une légende ou de quelqu'un qu'on voyait moins? Ou est-ce que c'est vraiment l'affrontement pour ceux que tu penses qui vont être à WrestleMania? C'est quoi l'angle que tu préfères le plus dans un Rumble?
C'est sûr que les surprises, ils jouent pour beaucoup. Il n'y a rien de pire qu'un Rumble où les 30 participants sont annoncés d'avance. Mais je pense que ça dépend des lutteurs. Tu sais, il y a une année où un des Rumbles a terminé avec l'Undertaker et Shawn Michaels, qui étaient les deux derniers. Puis l'échange de la fin a duré au moins 10 minutes.
Wow!
Puis c'est probablement une des seules années, justement, où l'échange de la fin était aussi long. C'est devenu comme un match. Parce que les deux étaient les deux gros favoris pour aller à WrestleMania. Fait qu'il y a personne qui voulait être éliminé. Fait qu'il y avait un échange qui était vraiment émotionnel à l'idée de qui va passer par-dessus le troisième quart. Parce que tu sais, il y a juste dans un Rumble où l'idée de passer par-dessus la troisième corde, c'est aussi dramatique. C'est un match qui est le fun pour raconter toutes sortes d'histoires. Là, tu veux savoir c'est qui va être le Iron Man cette année, puis qui va rentrer premier, qui va rentrer deuxième. Il y a toujours de la gimmick autour de n'importe quoi avec le Rumble. C'est un match qui est parfait. Moi, c'est mon match préféré de l'année. Puis le 2001, nonobstant de ce qu'il représente pour moi au niveau de la mémoire ou des souvenirs, c'est un match qui est parfait. Puis même à la fin, je pense, Jim Ross a plus de voix, Austin y est en sang, Kane a resté une heure dans le ring, The Rock a mangé un chokeslam d'un Big Show qui revenait dans la table des annonceurs. Le match est lourd, il est plein, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dedans. C'est vraiment un bon match. Puis toute l'undercard du Rumble 2001 est excellente aussi. Je pense que les Dudley Boys affrontent Edge puis Christian. Il y a un match entre Kurt Angle puis Triple H. C'est vraiment un beau Rumble. Je pense que Jericho affronte, si je me trompe pas, Chris Jericho affronte Chris Benoit aussi pour la ceinture intercontinentale. Puis ça, avec, c'est complètement cinglé. Je pense que c'est un match d'échelle.
Fait que si comme Mathieu, vous avez été vraiment impressionné ou juste à l'entendre, ça vous donne le goût de l'écouter, ben Royal Rumble 2001. Vous êtes capable de trouver ça, puis aller regarder ça. Moi, ça me tente, en tout cas. Mathieu Lavigne, merci beaucoup. On va se parler pour d'autres sujets sous peu. Toujours très intéressant. Merci.
Quand tu veux, Marc.
Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bédard Bécieux, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise. noire-et-blanche.ca pour plus d'infos. On est de retour sur le CIM et parce qu'on a plusieurs auditeurs qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean et parce que c'est un excellent lutteur, on voulait aller, premièrement, prendre des nouvelles de Matt Angel.
L'ange de Jonquière.
C'est toi qui l'appelles comme oui. Ça? Parle-nous-en donc un peu, Matt Angel.
Écoute, un des meilleurs lutteurs au Canada, fait de la haute voltige, raconte de belles histoires, une belle énergie, du feu. Il est en ce moment beaucoup à la NSPW à Québec avec Marco Estrada puis Travis Toxic. Les Intouchables, il vire la place à l'envers à toutes les places qu'il lutte, Matt Angel. Un des top, top, top.
Oui, et on est content de le recevoir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Il fallait lui demander à lui aussi, quel est ton meilleur combat à vie que tu as vu, soit à la télé ou live? Et voici l'entrevue qu'on a concoctée avec Matt Angel,
l'ange de Jonquière.
Alors, tel que discuté au début de l'épisode, Matt Angel est notre invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est dommage, vous ne le voyez pas. Il est resplendissant, souriant. Il manque un peu de bronzage, mais à part ça, ça a l'air d'être correct. Comment ça va, Matt?
Ça va super bien. Merci de m'inviter sur ton podcast, Marc.
Ça me fait plaisir. On voulait te demander à toi aussi, c'est lequel combat que tu as vu ou que tu as assisté live, que tu as vu à la télé, qui est ton combat préféré? Un seul.
Ben moi, mon combat préféré, c'est un combat de la Ring of Honor en 2005. Je me rappelle plus c'était où exactement que ça se passait, mais c'était Samoa Joe contre Kobashi. Moi, ce combat-là me fait capoter chaque fois que je l'écoute. Tu sais, comme ça pourrait je pourrais tomber dans le The Rock Hulk Hogan si on parlait de la WWE, mais moi, c'est vraiment Ring of Honor, ce combat-là me fait capoter. Deux gars qui se battaient. On aurait dit une vraie bagarre, mais ça me faisait halluciner ben raide. Je le réécoute des fois.
Mais tu l'avais vu où, ce combat-là?
Je l'ai pas vu à la TV live. Mais je l'avais vu sur YouTube quand il avait sorti après ça. Là. Puis à ce moment-là, j'ai capoté ben raide.
Là. Et puis là, tu as vu beaucoup d'années après 2005?
Non, quelques années. Même, je ne suis même pas sûr que c'est quelques années après. Là. Je commençais à écouter la lutte indépendante à cette époque-là. Là. Fait que ça devait être 2006 ou 2007 que j'ai vu ce combat-là.
Tu avais quel âge?
Ah, j'étais jeune. Je vais avoir 12 ans à peu près.
Tabarouette. Ouais. Tu n'avais même pas de bouton.
Non, pas encore. Je n'ai jamais eu.
C'est bon. Et ce combat-là, Matt, qu'est-ce qui fait, à part que c'est comme ça avait l'air d'une vraie bagarre de rue, qu'est-ce qui fait que ce combat-là t'a marqué parce que tu dois en avoir vu des milliers?
Ben moi, c'est vraiment la foule. À ce moment-là, tu sais, moi, ce qui me fait le plus triper dans la lutte, c'est la foule. Fait qu'à ce moment-là, la foule était complètement disjonctée. Tu sais, je veux dire, de voir une foule disjonctée à WrestleMania, on est habitué à ça. Tu sais, d'un combat de Rock Hulk Hogan, on s'attend à ça. Mais dans la lutte indépendante, c'était quand même assez rare qu'on avait des foules qui étaient si bruyantes. Et pour ce combat-là, c'était hallucinant. La foule a tellement embarqué dans le combat que ça rendait toutes les prises. Tu sais, ils n'ont pas fait des prises extraordinaires, mais toutes les prises qu'ils ont faites, les gens capotaient. Puis moi, c'est vraiment la foule qui est venue me chercher dans ce combat-là.
Tu sais qu'est-ce qu'ils disent, les Américains, hein?
Qu'est-ce qu'ils disent?
The fool is in the liar!
J'avais hâte.
Fait que donc, ce combat-là, Samoa Joe, qui quelques années plus tard, quelques années plus tard, t'es arrivé à TNA.
Ouais, exactement. Là, il était vraiment, il se concentrait sur Ring of Honor à cette époque-là.
Mais il avait-tu le même look?
Oui, ben, il a toujours eu le même look, hein, ce gars-là.
La serviette.
Ouais, la serviette, puis... je me rappelle que ce combat-là était très physique, tu sais, Kobashi, c'était quelqu'un qui donnait des gros atémis, là, puis comment que ça rentrait, là, c'était fou, là, puis tu sais, le visage que Samoa Joe avait, on aurait dit qu'il avait mal pour vrai. Moi, j'ai vraiment capoté sur ce combat-là. Puis tu sais, c'est sûr que là, depuis tantôt, je te parle aussi de Rock Hulk Hogan, parce que tu sais, à WrestleMania, tu sais, c'est vraiment ça qui avait marqué vraiment les gens, mais dans la lutte indépendante, on en parle rarement, mais ce combat-là a marqué la lutte indépendante, vraiment.
Ben, c'est sûr que la lutte indépendante est moins accessible. Ben aujourd'hui, quelqu'un qui se donne la peine, puis il va sur YouTube, il va trouver tout ce qu'il veut. Puis même du côté européen, puis de l'Asie, du Mexique. Mais dans ce qui était le traditionnel auparavant, si tu ne l'avais pas à RDS ou encore à TV, ben tu ne le voyais pas, puis tu ne connaissais pas ça.
Non, puis tu sais, je peux pas dire que je trouvais ça bon, la lutte indépendante. C'est ça qui était spécial. C'est que tu sais, moi, la lutte indépendante, je trouvais pas ça bon parce que j'étais habitué à un produit qui était rodé, qui était solide, comme la WWE offrait, ou même à l'époque, la TNA offrait aussi quand même un produit qui était assez solide. Fait que tu sais, d'arriver avec la Ring of Honor, qui était plus underground à cette époque-là, tu sais, c'était streamé, c'était tout nouveau, là, tu sais, dans le sens où c'était pas très, très connu. Puis là, j'ai vu ce combat-là, j'ai fait « Wow, OK, là, ça, c'est un game changer, là. » Ça, on vient de rentrer. Tu sais, j'étais pas habitué de voir un combat aussi physique non plus, là. Moi, j'étais habitué à voir des angles de caméra, des personnages, etc. J'étais jeune aussi, là, tu sais.
12 ans, ouais.
Mais ans.
Écoute, Matt, merci beaucoup d'avoir donné ton input sur ce combat-là, complètement champ gauche. On aime ça. On aime ça quand c'est différent. Et je vais te recommuniquer avec toi pour d'autres sujets, si tu le permets bien, vu que tu es l'orgueil du Saguenay.
Ben, je suis la fierté du Saguenay.
La fierté, c'est ça. Je t'approche!
Mais ça me fait extrêmement plaisir, ça va me faire plaisir.
Merci beaucoup.
C'est bon.
Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans, enfin concrétisé. Ma biographie, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop.
Marc, quand tu m'as parlé que tu voulais faire une troisième partie sur le meilleur combat, j'étais un peu sceptique en disant, écoute, les gars des boys vont nous appeler en disant qu'on essaie trop la sauce, mais ça valait la peine parce que les entrevues que tu as eues, c'était vraiment intéressant.
Oui, parce que c'est chaque amateur de lutte a son combat préféré. Oui. Puis, à un moment donné, quand tu reçois des appels des invités qui veulent participer sur ton podcast, c'est dur de dire non. Fait que là, on a bouclé
la boucle. Hey, c'est bien dit, hein, ça.
N'est-ce pas?
Hey, parle-moi donc de la semaine prochaine au podcast. Qu'est-ce qu'on a au menu?
Écoute, on est dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois sombre. C'est pas vraiment le mois que tout le monde déteste le plus. T'as bien sûr le jour du souvenir. Et c'est le mois des morts. On l'appelle comme ça.
Ouais.
Et une idée de David Jouan.
L'incroyable David Jouan.
Oui, collaborateur français.
Notre collaborateur français préféré.
Oui! Et le seul? Parce que nous, au CIM, nous sommes international!
Je pensais que tu allais dire qu'on est inclusif. Le nous inclusif.
Oui, il y a ça. Et on devrait avoir un collaborateur de l'Afrique.
Oui!
Un de ces jours.
Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces.
Ah, oh, j'aimerais ça.
Soyez patient.
Hey, tu m'as allumé, là.
J'ai vu ça. Quel lutteur vous manque le plus? C'est le mois des morts dans les lutteurs qui sont décédés. Lequel lutteur vous manque le plus? Et la semaine prochaine, on aura plusieurs invités qui vont nous dire qui est ce lutteur que tu aimerais qu'il soit encore là parmi nous.
Wow, j'ai hâte d'entendre ça.
J'ai hâte d'entendre ton choix. As-tu hâte d'entendre le mien?
Évidemment.
Alors, ne manquez pas l'épisode 87. La semaine prochaine, soyez-y, mesdames, messieurs!